Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
C'en est fini avec l'examen d'état édition 2024 en RDC. Au Nord Kivu, il n'y a eu de tapage ni débordement à Goma comme à Beni, à la différence de Bukavu où la fin de ces épreuves hier a poussé certains élèves à déchirer les uniformes de leurs collègues, y compris celles des jeunes filles et en plein air. Ituri, nouvelle attaque des rebelles ADF à Mambelenga, dans le sud d'Irumu. Bilan, 4 morts, 2 personnes portées disparues et 8 paysans pris en otage. Des activistes des droits humains demandent à l'armée de renforcer sa présence sur l'axe Komanda Luna qui accueille de nombreux retournés de guerre. Et puis, prévenir l'enrichissement illicite dans la gestion de la chose publique. Des travaux se tiennent à ce sujet depuis hier jusqu'à ce vendredi à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Michel-Victor Lessaye, coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Mais d'abord cette information, affaire des forages d'eau et lampadaires, François Rubota, ancien ministre du développement rural, et Mike Kasenga, entrepreneur placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier à la prison centrale de Makala à Kinshasa, information livrée par des sources pénitentiaires. Ils sont poursuivis par le parquet général près la cour de cassation pour détournement présumé des deniers publics destinés aux ouvrages relatifs aux lampadaires et forages d'eau dans le pays. Le même parquet a déjà entamé la procédure des auditions avec un autre accusé de surfacturation dans cette affaire, en l'occurrence le député national Nicolas Kazadi. Rappelons que l'Assemblée nationale venait récemment de répondre favorablement au réquisitoire du procureur général autorisant les poursuites à l'encontre de l'ancien ministre des Finances. À tous et à toutes, bonjour. Examen d'état édition 2024. Le taux de réussite du déroulement de ces épreuves s'élève à plus de 95%, ce malgré la situation d'insécurité que traverse le pays dans certaines provinces. C'est en substance ce que déclare l'inspecteur général de l'EPST. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette réussite? Jacques Odiamusungai parle des efforts fournis par le gouvernement, les partenaires provinciaux, les élèves finalistes et les parents. Même dans les zones en conflit, on a laissé les choses se dérouler normalement parce qu'on a compris que l'examen d'État engage la République. C'est l'avenir de nos enfants, ajoute-t-il. Et justement, au Nord Kivu, il n'y a eu ni tapage ni débordement. À Goma, bon nombre d'élèves finalistes ont terminé les épreuves d'examen d'État longtemps avant 12 heures. Malgré ça, personne ne les a vus déferler sur la rue pour célébrer comme d'ordinaire la fin d'un cycle. On pouvait juste apercevoir des bleus-blancs marchant en petits groupes dans le calme pour regagner le domicile familial. Reportage signé Chris Mukandmatande.
Les scènes du genre, déchirer publiquement l'uniforme et s'adonner à des mouvements de liesse, n'ont pas été signalés ce jeudi sur la ville de Goma. En fait dominant, les chemises blanches ont tout de même été salies par l'encre d'éclamation du pourcentage escompté par les uns et les autres à la publication officielle des résultats. D'aucuns estiment que les élèves finalistes du secondaire ont dû intérioriser l'avertissement de l'autorité provinciale largement diffusé la veille, lu devant la presse par le conseiller du gouverneur en matière de sécurité, le général de brigade Danny Yangba. Le communiqué du numéro 1 du Nord Kivu, bien que bref, est très clair, il est strictement interdit de déchirer les uniformes ou de se retrouver dans les débits des boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État pour célébrer la fin des études secondaires. Ainsi donc, les finalistes étaient avertis. Cependant, dans certains quartiers de la ville, la dimension juvénile a fini par se manifester. Certains élèves se sont amusés à narguer les agents de l'ordre. Chris Mukand, Goma, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni également, les épreuves se sont déroulées dans le calme. Aucun incident majeur signalé, indique le responsable de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST Beni. Olivier Matsoro Lenge en parle au micro de Grévis Salomon.
Tout s'est passé comme souhaité. Nous n'avons pas connu de carence d'items. Tout s'est passé normalement. Tous les cahiers d'items étaient bien servis. Les enfants ont travaillé dans des conditions normales. Nous n'avons pas eu de cas de déplacés comme on l'avait dit la fois passée. Nous avons eu un seul cas avant-hier où un enfant qui habite dans une famille qui a été vandalisée, l'enfant a été blessé, mais sa situation sanitaire n'est pas à craindre. Il a fait l'examen le premier, le deuxième jour, et c'est au troisième jour qu'il a été victime de vandalisme dans sa famille. famille, mais nous avons vite résolu le problème et il vient de passer ses examens normalement. Je salue vraiment le déroulement des examens d'État avec enthousiasme parce que quand il y a une activité de ce genre, on a un peu d'inquiétude, mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que tout s'est passé normalement. Nous profitons de ce micro pour remercier toutes les autorités qui s'y sont impliquées.
Direction l'Ituri, 4 civils tués, 2 autres portés disparus et 8 paysans pris en otage. Bilan d'une nouvelle attaque mercredi des rebelles ADF à Mambelenga, dans la chefferie de Walesevankutu, dans le sud d'Irumu. Selon des sources locales, les victimes ont été surprises dans leur maison, puis décapitées à la machette par ces inciviques. Des activistes des droits humains déplorent également l'incendie des maisons et des 2 motos. L'un d'eux, Christophe Mouniaderou, demande à l'armée de renforcer sa présence sur l'axe Komanda-Luna qui accueille des nombreux retournés de guerre. L'activiste Christophe Mouniaderou est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous recommandons à notre population civile une vigilance et cette dernière doit rester toujours trop vigilante. Et aux militaires engagés dans les opérations conjointes sous Jafar de ce UPDF d'entrer en profondeur vers l'ennemi et non pas attendre qu'il y ait la perte à vie humaine afin que ce dernier puisse intervenir. Vu cette situation, nous pensons que l'ennemi veut encore saboter la RN4, veut saboter tous les villages et les environnants du village attaqué. Raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait un mécanisme et qui doit accompagner les opérations. La jeunesse doit briser la paire afin que cette dernière aussi puisse accompagner et les militaires. Et nous avons toujours appelé la jeunesse à la prise de conscience, de dénoncer tout mouvement suspect, de dénoncer tout cela qui se cacherait de la population, qui complote avec l'ennemi.
Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, nous apprenons des ossements humains découverts mercredi dans le village de Mapasana et enterrés le même jour par des jeunes de cantine. Nous sommes à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Beni. Selon le président de la jeunesse de cette localité, la fouille continue dans la région où plusieurs membres de certaines familles manquent toujours à l'appel, ce depuis la dernière attaque des EDF en mai dernier. Plus de détails avec Marc Marofimbo.
Selon le président du conseil local de la jeunesse de Cantine, 8 ossements humains ont été découverts mercredi entre les villages de Mapasana et Pandos, à plus ou moins 7 km de Cantine Centre. Il affirme qu'il s'agit des victimes des dernières attaques des ADF dans cette entité où des dizaines de civils ont été tués en mai dernier. Depuis, des jeunes accompagnés des volontaires de la Croix-Rouge continuent avec la fouille dans la région à la recherche de nouvelles découvertes et pour des enterrements dignes. Tchétcha Aliamini est le président du conseil local de la jeunesse de Cantine.
Après les exactions des ADF, quand on était en train d'enterrer parce qu'il y avait plusieurs personnes dans la brousse qui étaient déjà mortes, récupérer ou enterrer tous les corps. Nous étions en train d'enterrer notre corps et derrière nous, notre corps commençait déjà à se décomposer. Nous avions enterré là avec retard parce que nous avions commencé très loin pour venir terminer tout proche du village cantine. Je pense que tous les corps sont déjà enterrés, sauf que on n'avait pas encore vu un corps quelconque dans la brousse. Et nous continuons toujours avec des recherches sur la brousse. S'il y aura un corps qui n'est pas encore enterré, j'espère qu'on va croiser les corps et nous allons enterrer parce que la fouille continue.
Tchétché Aliamini ajoute que depuis le mois de mai dernier, au moins 7 localités du groupement de Bassoama Diwe sont vidées de leurs habitants à cause des attaques des rebelles des ADF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et dans la ville de Beni, une 20aine de leaders communautaires, acteurs politiques, associations féminines et confessions religieuses ont échangé hier autour des dynamiques sociopolitiques au Grand Nord Kivu. Activité organisée par la section des affaires politiques de la MONUSCO Beni avec pour but d'outiller ces acteurs pour la sensibilisation de la communauté afin qu'elle puisse s'approprier le processus de paix dans la région. Retrouvons encore une fois Marc Marofimbo.
Les participants ont échangé sur la persistance de l'insécurité dans la région de Beni. Ils ont analysé les défis majeurs qui font que les processus de paix dans la région tardent à se concrétiser. Samuel Do Katembo Sekanabo, président du Parlement des jeunes de la ville de Beni, explique.
Premièrement, il y a pas mal de gens qui collaborent avec l'ennemi et l'aident à bouger partout où il veut être. Deuxièmement, l'ennemi est en train de créer des hésitations dans le chef de la coalition UPDF et FARDC. Troisièmement, il y a des supplétifs de l'EDF qui travaillent un peu partout et parmi les Wazalendo, il y a des beaux Wazalendo qui travaillent, mais il y a aussi d'autres qui sont des supplétifs de l'EDF.
Les participants ont émis le vœu de voir ces genres d'activités se multiplier. Ils ont également recommandé que chacun restitue les acquis auprès de sa communauté afin que la population ne soit plus victime de manipulations et de désinformations. Bishop Javier Baraka, président du consortium des confessions religieuses dans la région de Beni.
De telles séances devaient être multipliées. On se rend compte que la population demeure dans une désinformation et même dans la stigmatisation parce qu'ils n'ont pas la même lecture que leurs leaders. Et surtout amener des campagnes de sensibilisation pour que la paix revienne dans nos entités.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les militaires du camp Kokolo et leurs dépendants invités à prendre conscience des méfaits des drogues, un appel lancé au cours d'une matinée d'échange mercredi à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette sensibilisation a été organisée par l'ONG Minzoto en partenariat avec le Programme national de lutte contre la toxicomanie et d'autres structures comme la Fédération mondiale contre les drogues. Cette année, cette journée a été célébrée autour du thème « Les faits sont clairs ». Investissons dans la prévention. Reportage d'Étienne Lissoumbou rendu par John Chibouaboua.
Ils étaient nombreux. Le jeune et militaire du camp Kokolo venait participer à cette matinée. Le choix porté sur l'un des grands camps militaires de la RDC avait pour objectif de les sensibiliser sur le méfait de la drogue, comme l'explique Dandié, la directeur de la Fondation mondiale contre les drogues, WIFAD.
Pourquoi avoir choisi camp Kokolo? Comme vous le savez, c'est le plus grand camp militaire de la République démocratique du Congo. Et nous avons voulu conscientiser les jeunes du camp, ainsi que nos militaires, sur les méfaits de ces substances.
Pour lutter contre ces fléaux, un bureau d'écoute est mis à la disposition des jeunes. Delphine Zouzi, présidente de l'ONG Minzoto.
Nous avons un bureau d'écoute, nous écoutons les jeunes, pourquoi ils sont entrés dans ce fléau de la drogue, de la toxicomanie, et nous les accompagnons petit à petit avec l'accompagnement psychosocial, éducatif, spirituel, la prise en charge.
Saddam Maïmona, l'un des jeunes sur place, dit être heureux d'écouter ses conseils. Il invite d'autres jeunes à abandonner la drogue car elle détruit la jeunesse. Cette série de sensibilisations se poursuivra dans d'autres comptes de l'armée ainsi que de la police.
Établir un plaidoyer pour défendre et protéger les personnes de troisième âge en RDC, c'est le combat que mène le réseau international pour le droit à la protection sociale Inspire Congo. Cette résolution est contenue dans une étude sur les droits des personnes de troisième âge en Afrique centrale. La restitution a eu lieu hier au cours d'une séance de travail à Kinshasa. Lors de ce rendez-vous, il était aussi question de voir comment mener ce plaidoyer auprès des autorités étatiques. Le compte-rendu d'Étienne Lissoumbou.
La prise en charge des personnes de troisième âge est faible et négligée en RDC. C'est la conclusion à laquelle a abouti cette étude menée par le professeur Sylvain Chomba, membre du réseau Inspire Congo, pendant 6 mois dans 3 pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Au cours de la séance des restitutions de cette étude, le professeur Sylvain Chomba explique l'intérêt que porte Inspire Congo sur cette recherche.
L'intérêt est tout à fait indéniable parce que les personnes qui sont maintenant considérées comme relevantes de cette couche sociale-là, c'est-à-dire troisième âge, ce sont des gens qui ont tout donné lorsqu'ils étaient à force de l'âge. Ils avaient tout donné en termes de services.
Le chargé d'études et planification d'Inspire Congo fait une demande pour le plaidoyer sur la protection des personnes de troisième âge auprès des autorités. Jean-Trésor Nzali.
Nous demandons la vulgarisation d'abord de ces rapports d'études que nous avons remis aujourd'hui officiellement à un certain nombre de responsables, mais aussi nous voulons que notre Parlement puisse se saisir de ces dossiers. Et...
À la fin de cette activité, un exemplaire des rapports sur la restitution de l'étude de droits des personnes de troisième âge est remis à quelques autorités présentes dans la salle.
Nord Kivu, 12 prestataires des soins ont clôturé hier à Beni une formation de 3 jours sur les techniques de prise en charge des enfants avec pieds bots et le suivi psychologique des parents de ces enfants. La formation était organisée par l'ONG Hopeworks en partenariat avec Il Africa. L'objectif était de réduire les cas de récidive chez les malades. Reportage de Guylaine Kassassia.
Il s'agit de 6 cliniciens orthopédistes et des 6 conseillers parentaux, 12 prestataires de soins, dont 4 femmes qui ont suivi cette formation qui visait également à accroître la main-d'œuvre du personnel orthopédiste compte tenu de la surcharge des travail dans la région. Comme l'explique Vincent Sikulimwenge, coordonnateur au sein de l'ONG Hope Works et formateur.
Depuis très bien avant, dans nos différentes cliniques que nous organisons au pays, on pouvait trouver un seul clinicien dans une clinique. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette formation. Pour que nous puissions accroître notre main d'œuvre, nous attendons une amélioration de la prise en charge pour que nous puissions éviter les cas de récidive des enfants qui naissent avec la malformation des pieds bouts.
Les participants estiment que cette formation leur permettra de mieux effectuer désormais leur travail. Albert Kavusa Mutsopi, orthopédiste à l'hôpital général de Mamboa.
Il y a certaines erreurs qu'on était en train de commettre pendant la prise en charge de cette malformation, mais on venait encore de nous réformer afin que nous soyons à mesure de bien corriger cette malformation en utilisant cette méthode POSETI. Avant, il y a certaines étapes qu'on était en train de sauter.
Dans tous les canaux qui vous, il n'y a que 6 cliniciens orthopédistes jusqu'ici. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le président de la République du Congo, reçu jeudi au Kremlin par son homologue de Russie, Denis Sassou Nguesso, et Vladimir Poutine, ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Le président Poutine a salué la contribution du président Sassou Nguesso au développement des relations russo-congolaises et l'a remercié pour son travail commun sur la scène internationale. Le président russe a également remis à son homologue congolais une distinction d'honneur pour sa contribution au développement et au renforcement des relations entre la Russie et le Congo-Brazzaville.
L'invité.
Des acteurs étatiques, non étatiques, ainsi que des partenaires au développement participent depuis hier jusqu'à aujourd'hui aux travaux d'échange sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et mandataires publics. Invité de Radio Kapi, le coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption affirme organiser ce forum pour prévenir l'enrichissement illicite dans la gestion de la chose publique. Michel Victor Lessay est avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le coordonnateur.
Bonjour monsieur le journaliste.
L'agence des préventions et des luttes contre la corruption organise pendant des jours des travaux de réflexion et d'échanges sur la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement et des mandataires publics. Quelles sont les raisons qui vous poussent à organiser ces forums?
Comme vous savez, la déclaration de patrimoine est une obligation à la fois constitutionnelle et légale. Alors, nous nous sommes rendus compte que cette obligation n'est pas respectée. C'est pourquoi on a voulu organiser un temps de réflexion et d'échange pour justement arriver à connaître la raison de ce déficit et de voir des ficelles à tirer pour remédier à cette situation.
Certains analystes estiment que ces assises sont organisées en retard par rapport à la prise des fonctions des membres du gouvernement. Qu'en dites-vous?
Non, mais il n'y a jamais de retard dans ce genre de choses. L'essentiel, c'est d'y arriver. Nous sommes en train de chercher une solution. Mieux vaut tard que jamais. Donc, le gouvernement vient d'être installé, je pense, il y a moins d'un mois. Donc, à mon estime, c'est pas encore trop tard. Il y a moyen de corriger le tir. Voilà.
Alors, quelles sont les démarches à mener ou compte mener l'agence des préventions et lutte contre la corruption au cas où un mandataire public ou un membre du gouvernement refuserait de déclarer son patrimoine?
Le procureur général, après la cour constitutionnelle, l'a bien dit. Il y a des sanctions qui sont liées au fait de ne pas déposer sa déclaration de patrimoine ou de déposer une fausse déclaration de patrimoine. Donc ces sanctions-là seront appliquées.
Bénéficiez-vous de l'appui de certains partenaires pour mener cette politique, monsieur le coordonnateur?
Oui, les assises d'aujourd'hui, évidemment, sont organisées avec des partenaires étrangers, évidemment.
À quel message lancerez-vous en marge de cette activité à la population, aux mandataires publics et aux membres du gouvernement?
Voilà. La déclaration du patrimoine apporte une double garantie. Pour ce qui est de la population, qui est très regardante et très méticuleuse en ce qui concerne les biens des autorités, c'est une indication. La déclaration de patrimoine est une indication pour la population, pour savoir à qui appartiennent les biens. La deuxième garantie, c'est par rapport aux concernés eux-mêmes. Cela va leur éviter d'être accusés à tort de posséder tel ou tel autre bien en déposant évidemment une déclaration de patrimoine en temps utile.
Monsieur le coordonnateur Radio Capi vous dit merci.
Merci monsieur le journaliste.
Michel Victor Lessaye, coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.